Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Quand nous imaginons la vie éternelle, nous projetons de l'autre côté une vie de rêve et de délices. Cette retraite dorée, enfin obtenue avec dessert à volonté et farniente au bord de la piscine. La vie éternelle dont nous parle Jésus nous fait sortir de nos fantasmes et interroge notre propre rapport au temps et à l'espace. Dans l'évangile de ce dimanche, la vie qui coule en abondance commence dès aujourd'hui. Elle nous est donnée à l'instant même si nous nous ouvrons à la présence, celle qui nous est offerte gratuitement. Connaître la présence, en vivre, pour devenir soi-même présence à soi et aux autres, c'est le cœur de la vie éternelle dont nous parle Saint Jean dans son évangile. Pour le commenter, je reçois James Woody. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier. Nous commençons par écouter la parole. C'est au chapitre 17, versets 1 à 11.
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.
James Woody, cet évangile, il est très fort en densité. Il appartient au long discours d'adieu que Jésus prononce devant ses disciples avant sa passion.
Oui, il est chargé de toute la passion qui est en train de se dérouler avec ce repas dans lequel il leur annonce son départ, le fait qu'ils vont se retrouver seuls. Et c'est un peu lors du bilan finalement, et je trouve que cette prière est un peu pour Jésus une occasion de faire le bilan de tout son ministère. Et sa prière lui permet de porter un regard rétrospectif en fait sur ce qu'il a vécu jusque-là. Et pour autant, on constate qu'il ne fait pas l'inventaire de ce qu'il a réalisé. Je veux dire que cette prière n'est pas comme un rapport d'activité dans toutes les assemblées générales de nos associations que nous n'avons pas réussi à avoir d'ailleurs à cause du confinement. Il y a un regard rétrospectif qui est une façon de lire son ministère en fonction de l'objectif qui lui avait été assigné. Et sa vocation, c'était de glorifier Dieu. Et en fait, il va se demander s'il a réussi à glorifier Dieu. Ça va être un peu l'objet au moment où il vit ses derniers instants avec les disciples.
Ce texte, il signifie aussi que Jésus s'intéresse au sort de ses amis, de ceux qui l'ont suivi, ses disciples, qu'il ne les abandonnera pas quoi qu'il arrive.
Oui, à un moment donné où il y a une vraie prière d'intercession, c'est quand il dit qu'il prie pour ceux que Dieu lui a donnés. Mais même avant cela, ce que vous appelez à juste titre le discours d'adieu a vraiment veillé à équiper les disciples qui vont être maintenant au front sans pouvoir s'appuyer sur Jésus. Jusque-là, Jésus était toujours à les protéger quand il y avait des polémiques, quand il y avait des discussions vives avec les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs. Il a toujours fait écran, finalement. Et il leur dit « Il est utile pour vous que je m'en aille, de façon à ce qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, mais il ne le fait pas en les abandonnant à leur triste sort. Il les fait non seulement en leur donnant les paroles qui leur permettront de pouvoir faire face à ces responsabilités, et en même temps, en confiant leur destinée à Dieu. » Donc il y a vraiment de la part de Jésus tout ce qu'il faut pour que les disciples ne vivent pas cette séparation comme un deuil infini.
Au début de cet évangile, il y a l'adresse hein, que Jésus fait au Père. Père, l'heure est venue. Donc il ne parle pas dans le vide. Et d'ailleurs, le Père va revenir hein, un peu plus loin dans le texte. Il veut faire le lien entre ce Père et puis ce monde et ceux qui l'ont suivi.
Oui, là, on peut toujours se demander ce que signifie cette heure qui vient. Se dire que c'est la fin de son ministère terrestre, et donc il y a la période de transition. On peut se dire que l'heure est venue, c'est il y a une occasion à saisir, en grec on dirait un kairos, il y a une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer, mais on peut se dire qu'effectivement c'est le temps de la passion. Jésus savait qu'il faudrait en passer par cette situation, il ne s'esquive pas. Et il va faire en sorte que la croix devienne une occasion de glorification et donc une sorte de grand témoignage de ce qu'est le Père. Et le Père, c'est justement celui qui inlassablement fait venir au monde. C'est celui qui inlassablement mène à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et je pense que quand il s'adresse au Père face aux disciples, c'est justement pour établir une connexion directe entre le Père et les disciples qui vont devenir apôtres.
James Woody, vous avez prononcé le gros mot de cet évangile, glorification, glorifie ton fils afin que le fils te glorifie. Ce verbe glorifier, il est présent pas moins de 6 fois dans notre passage. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Alors c'est vrai que c'est un terme qui est un petit peu ambigu quand on l'entend de nos jours, parce que quand on pense à la gloire, on en a une idée qui est un peu en rapport avec le star system. Et souvent on imagine que la gloire, c'est une vie marquée par le luxe, une réputation, comme elle s'étale dans les magazines en papier glacé. Dans la Bible, la gloire, c'est bien autre chose. En hébreu, le mot kavod, ça signifie être lourd. Ce qui est glorieux, c'est ce qui est chargé, ce qui a du poids. Et du coup, glorifier, c'est donner du poids, ça veut dire donner de la consistance à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. C'est au fond de donner de l'importance, hein. C'est éviter d'en rester à la surface des choses. Et donc, la gloire, n'a rien à voir avec les paillettes, elle a tout à voir avec de la densité. Et au fond, Jésus va donner de la densité à sa relation au Père pour qu'il y ait de la densité dans la vie des disciples.
On pourrait dire donc que cette gloire, c'est un poids de densité de présence qui apparaît en plus chez Jean, particulièrement au moment de la croix.
Oui, il y a même cette idée qui d'ailleurs est déjà évoquée au chapitre 12 et au verset 23 de l'évangile de Jean, c'est que la croix va être une occasion de glorification de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en principe, Jésus aurait dû être lapidé. Quand on est lapidé, on tombe à terre, on est écrasé. Et au fond, la croix, c'est ce geste d'élévation. Voyez, donc il y a cette idée que Jésus va être glorifié par ce supplice qu'il va subir. Et c'est une façon de dire que le Père est celui qui est capable de subvertir les situations. On veut faire taire Jésus, on veut faire taire le Christ. Dieu, qui est donc la figure du Père dans la bouche de Jésus, c'est celui qui donne les paroles qui font vivre. Et au fond, on veut le faire taire, il va y avoir une démultiplication de la parole, ce qui sera particulièrement signifié ensuite à l'épisode de Pentecôte. Et puis, ce que l'on veut terrasser, ce que l'on veut enfouir, eh bien, Dieu va le subvertir en le faisant apparaître dans une manifestation que même la mort ne pourra plus arrêter. C'est cette symbolique de la vie qui l'emporte sur toutes les puissances de mort.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
James Woody, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche chez Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Jésus est donc en train de prier son Père devant ses disciples. Et puis, il va dire à son Père, Tu m'as donné le pouvoir sur tout être de chair, et il est question de vie éternelle. Il donnera à ce Père la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette fameuse vie éternelle?
Eh bien, déjà, comme vous l'avez très justement dit en introduction, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose après la mort biologique. La vie éternelle, elle est accessible dès à présent. Et donc, il y a une temporalité qui est importante pour nous. Ce que l'on peut déjà découvrir avec ce que dit Jésus sur la vie éternelle, c'est que la vie éternelle, ce n'est pas une sorte de molécule qui nous permettrait de conserver une éternelle jeunesse, ni quelque chose qui régénérerait nos cellules et nous empêcherait de mourir. Comme on l'a dit, la passion, c'est la crucifixion et la mort de Jésus. Ça veut dire que la vie éternelle n'est pas l'abolition de la mort. On n'efface pas la mort de l'horizon. La vie éternelle, on dit que c'est une connaissance du vrai Dieu. Et le fait que Jésus parle de Dieu en termes de Père, ça nous a permis de rappeler à l'instant que c'est celui qui donne des paroles de vie. Et le Père, c'est celui qui fait venir au monde. Eh bien, dire que la vie éternelle, c'est le fait de connaître le vrai Dieu, signifie que la vie éternelle, c'est lorsque nous comprenons que notre existence est comprise en fonction de la vie et pas en fonction de la mort. Je veux dire que la vie, ce n'est pas chercher à tout prix à éviter la mort, à éviter le vieillissement. La vie, c'est s'efforcer de propulser notre histoire à la hauteur de ce que Dieu désigne. Donc la vie éternelle, on pourrait dire que ce n'est pas une sorte d'immortalité. Ce n'est pas la vie en termes de quantité, c'est la vie en termes de qualité. Et c'est une sorte de qualité infinie. Voilà ce que je crois nous fait découvrir Jésus dans cette explication de la vie éternelle.
James Woody, est-ce que cette vie éternelle est pour tout le monde, puisque Jésus dit que cette vie sera donnée à tous ceux que le Père lui a donnés? Qui sont exactement ces fameux bénéficiaires?
Alors, vous avez raison de poser la question parce que les réponses sont différentes au sein du christianisme. On a des réponses qui sont assez confinées pour le coup, c'est-à-dire que sont les disciples ces personnes que Jésus déclare être les personnes données par le Père. Donc on pourrait se dire, bah, c'est juste les disciples de Jésus. Et si on veut étendre un petit peu, on peut dire, ce sont les chrétiens. Mais quand on regarde les textes bibliques dans leur intégralité, on découvre que ce qui intéresse le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et donc le Dieu de Jésus-Christ, c'est l'humanité tout entière. On le découvre d'ailleurs avec le fait que Jésus lui-même va comprendre que sa mission ne se limite pas à Israël, mais qu'elle est pour celles et ceux qu'il va rencontrer. Autrement dit, Dieu est Père en ce sens qu'il nous fait découvrir de nouvelles fraternités que nous ne soupçonnions pas jusque-là. Donc, il y a d'un côté peut-être une sorte de restriction possible dans la compréhension de ces personnes données à Dieu. Si on se réfère à l'ensemble de la Bible, c'est l'humanité entière qui est donnée à Dieu et c'est cette humanité dont Jésus va se charger finalement. Et quand on parle de la kavod, de la gloire, elle est le fait que Jésus va manifester une densité inconnue jusque-là à l'ensemble de l'humanité.
C'est pour ça qu'il dit plus loin, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Donc c'est l'ensemble de l'humanité là.
Oui, et vous voyez, c'est le terme grec étant employé, c'est construit sur le verbe phanei qu'on entend dans l'épiphanie. C'est-à-dire que la manifestation, c'est rendre visible ce qui jusque-là ne l'était pas. On a d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 33, ce moment où Moïse, qui est l'un des plus grands prophètes, dans la Bible, demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Ça, c'est en hébreu. Et le texte grec utilise le verbe phanei, donc la manifestation, ce qui va donner l'épiphanie, en lui disant fais-moi voir toi-même. Et donc on voit bien qu'il y a un rapport entre la gloire et l'être de Dieu. Et du coup, c'est une sorte d'épiphanie pour le monde entier.
James Woody, toujours au sujet de la gloire, Jésus dit qu'il a glorifié le Père sur la terre, mais depuis l'origine, il l'a glorifié. Hein. Il parle de la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde existe. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ce Jésus, à la fois homme et Dieu, est là depuis toujours?
Je pense que ça fait référence au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, ce qu'on appelle souvent le prologue, quand on dit que le Verbe ou la parole était auprès de Dieu, qu'elle était là en fait depuis toujours et qu'elle est devenue chair, et ce qui sous-entend qu'elle s'est incarnée en Jésus. C'est une façon de dire que le projet de Dieu nous précède. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'important dans, je dirais, la construction du croyant qui est en train de se tramer dans ce passage, c'est que nous ne sommes pas auto-fondés. Nous sommes au bénéfice d'une histoire qui nous porte. Et cette histoire, dans l'évangile de Jean, elle commence avec une origine qui est inaccessible, bien en amont. Et ce que dit Jésus, c'est que finalement, il s'est inscrit dans ce sillon qui avait été ouvert avant même l'époque de Jean, l'époque des disciples, et qui se perpétuera ensuite, puisqu'on découvrira dans la suite de ce texte que les disciples vont devenir eux-mêmes apôtres, comme Jésus est apôtre à ce moment-là. Donc ça signifie que cette origine, ce n'est pas forcément l'origine de la fabrication du monde, mais c'est une façon de dire que nous sommes portés par une dynamique.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Nous poursuivons avec vous ce commentaire de l'évangile de ce dimanche, James Woody. Jésus poursuit son discours. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il est question du croire sur parole, c'est ça la foi en fait, parce que c'est très présent dans l'évangile de Jean, ce mot croire, il revient très très souvent.
Alors, c'est pas une croyance ou une foi aveugle, le terme qui est utilisé c'est le savoir, la connaissance, gnosko, et donc connaître, c'est pas simplement savoir d'ailleurs, c'est avoir éprouvé dans sa chair une vérité. Quand on connaît par cœur, je trouve que l'expression est belle, ça veut dire que c'est inscrit en nous parce qu'on a pu le tester, on a pu l'éprouver. Et je reprends aussi le début de l'évangile de Jean où on disait que finalement Jésus était l'exégèse de Dieu. Et cette exégèse, c'est une façon de nous dire que nous avons la capacité de comprendre ce qu'est Dieu et de pouvoir vivre de cette compréhension. Ça signifie qu'il va y avoir une révélation qui nous permet de révéler le monde et la vie comme on ne l'a jamais connu. Par exemple, quand on dit que Dieu est Père et que cela conduit à la vie, ça signifie que la vie est plus forte que la fatalité, que la vie est plus forte que la peur, que la vie est plus forte que la violence, plus forte que la maladie aussi, et qu'il est possible de traverser, par exemple pour la situation qui nous concerne, il est possible de traverser une pandémie. Il est possible que la société ne se défasse pas face à une crise d'ordre sanitaire, d'ordre social, d'ordre économique. Nous avons la capacité à pouvoir orienter notre vie vers un surplus d'existence, justement, plutôt que de nous laisser abattre par une sorte de destin, de fatalité à laquelle nous penserions être soumis. Nous ne sommes pas des êtres pour la mort, mais des êtres pour la vie, si je reprenais par exemple Hannah Arendt.
James Woody, à la fin de notre évangile, il y a une prière très concrète de Jésus qui dit à son Père, garde-les, hein, ces hommes, en ton nom. Qu'est-ce qui se joue là? Jésus sait qu'il va partir et il demande du secours pour ses amis?
Je disais tout à l'heure, il y a une intercession qui montre bien que Jésus n'abandonne pas les siens et que nous ne sommes pas livrés à notre triste sort. La mention du nom est assez intéressante parce qu'il faut se souvenir que dans la Bible hébraïque, Dieu a un nom qu'on ne prononce pas, si ce n'est le grand prêtre au moment du Yom Kippour, le jour du grand pardon dans la tradition. Et ce nom, c'est un mot en hébreu en quatre lettres, ce qu'on appelle le tétragramme, quatre lettres, YHWH pour la transcription, qui se fonde sur la racine aya, qui veut dire advenir. Et c'est un verbe qui est ici construit au futur. Et donc, c'est une façon de dire que le nom de Dieu, c'est la promesse que nous avons un avenir, qu'il y a encore un horizon quand nous avons l'impression d'être allés au bout de notre histoire. Une fois de plus, pas de fatalité, parce qu'il y a encore de la place pour que quelque chose advienne. Et donc, on peut dire que Dieu arrache l'homme à ce monde qui a comme économie, finalement, que tout doit se finir et tout doit se dégrader. La spiritualité chrétienne montre que tout ne se dégrade pas. Il y a de l'édification. Et le nom de Dieu, c'est ce qui signifie le fait que nous ne sommes pas des êtres pour la mort.
Jane Psudi, vous disiez à l'instant qu'il y a un horizon pour les hommes. C'est ça la bonne nouvelle de ce texte aujourd'hui, alors que nous traversons cette crise à la fois difficile socialement, sanitairement, mais aussi économiquement?
Il y a au moins deux bonnes nouvelles dans ce texte. Je dirais que la première, c'est qu'il y a aussi un très fort emploi du verbe donner. Et on passe, je crois, d'une économie de l'échange ou une économie de l'équivalence à une économie du don. C'est pas je te fais un don, tu me fais un contre-don. C'est je donne sans espoir de retour sur investissement, sans désir de contrepartie. Ça, c'est une chose importante, c'est que nous pouvons engager de nouveaux rapports les uns avec les autres qui ne sont plus des rapports de force. C'est le rapport de l'amour, pour le dire un peu rapidement avec cette tarte à la crème chrétienne, mais qui a tout son sens quand on comprend que donner à l'autre ce dont il a besoin pour s'épanouir, c'est ça le véritable amour. Et puis l'autre chose, c'est ce que vous venez de dire, le fait qu'il y a encore un horizon quand on pense que tout s'est dissous dans le malheur. Et c'est vraiment important de comprendre que la vie éternelle, c'est-à-dire cette vie d'une qualité infinie, moi je dirais une vie sans regret, une vie qui ne nous fait pas nourrir de regrets au soir de notre existence, eh bien la vie éternelle, ce n'est pas pour plus tard. La vie éternelle, c'est d'ores et déjà. Ça signifie que nous pouvons nous relever de nos abattements. En christianisme, on appelle ça la résurrection. Et donc, la vie humaine cesse d'être un combat pour éviter de disparaître. La vie humaine, c'est la possibilité d'éprouver dès à présent la satisfaction d'avoir une vie harmonieuse, même lorsque les conditions ne sont pas réunies. Il y a encore de la place pour franchir la mer de la faim, pour reprendre l'expression hébraïque du livre de l'Exode, cette libération d'Égypte qui passe à travers la Yam Sof, la mer de la faim, F-I-N. Même quand on pense que c'est fini, ça continue.
Quand Jésus dit à son Père « garde-les », au fond, « garde cette humanité », on peut se demander comment il nous garde aujourd'hui quand on voit ce qui se passe.
Je reviens sur l'expression « Dieu en tant que Père ». Et le Père, c'est celui qui offre des paroles qui permettent de se structurer et qui aussi permettent de donner du sens à l'existence. Eh bien, je pense que le patrimoine biblique nous permet de comprendre que Dieu, c'est le fait qu'il y a une réserve inépuisable de paroles pour nous remettre debout à l'intérieur de nous-mêmes. Cela signifie qu'à chaque fois que nous sommes face à Dieu, devant Dieu, nous sommes en capacité de redécouvrir qu'il y a des paroles qui vont à nouveau donner du sens. Et au fond, cette bonne nouvelle, c'est que notre vie n'est pas condamnée à l'absurde. Notre vie, ce n'est pas du chaos. Nous ne sommes pas comme un fétu de paille qui serait malmené par le cours de l'existence. Nous pouvons injecter de l'histoire personnelle, c'est-à-dire injecter du sens. Et on se pose parfois la question de « est-ce que Dieu existe ?» Eh bien, il me semble que les textes bibliques ne s'intéressent pas à cette question, ils diraient plutôt « Dieu insiste ». Vous voyez, cette capacité à fournir inlassablement les paroles dont nous avons besoin pour sortir de notre torpeur, pour nous remettre debout et aller dans un horizon qui sera infiniment plus vivable que ce que nous subissions jusque-là.
Dans un des livres que vous avez écrit, vous dites que prier, c'est faire quelque chose de ce qui nous arrive. Donc, on pourrait dire que Jésus nous invite dans sa prière à saisir ce qui est en train de se passer dans nos vies à l'échelle personnelle et collective pour le transformer?
Oui, on sent bien d'ailleurs que la situation de crise que nous avons vécue, sur le plan personnel, sur le plan ecclésial, sur le plan social, sur le plan international, nous encourage à changer ce qui n'était pas satisfaisant jusque-là. Et donc, on peut dire que l'Évangile, c'est cette force de subversion qui nous donne le courage suffisant pour pouvoir engager les réformes indispensables. Faire quelque chose de ce qui nous arrive, c'est de prendre conscience qu'un monde est peut-être en train de s'effondrer, mais qu'il y a la possibilité d'utiliser tous ces éléments qui n'étaient peut-être pas à leur juste place pour les réorganiser de façon à bâtir une société humaine qui sera justement beaucoup plus vivable. Donc, faire quelque chose de ce qui nous arrive, c'est en quelque sorte convertir une énergie, mais aussi convertir un système, convertir un dispositif, convertir des habitudes pour orienter notre histoire personnelle et puis une histoire collective, ecclésiale, politique, vers un horizon qui sera beaucoup plus satisfaisant.
Merci à vous, James Woody. L'évangile que nous avons lu est à retrouver chez Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Merci à Christophe Morag à la réalisation technique.